France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, submersion migratoire, un Premier ministre ne devrait pas dire ça, et guerre entre la RDC et le Rwanda, un échec collectif. Nos débatteurs ce dimanche, François Jomène, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste migration et climat, vous êtes le président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat au ministère des Armées. Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Directeur des éditions du CERF, Occident, ennemi mondial numéro 1, c'est votre dernier livre chez Albin Michel. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au Monde, Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, c'est publié chez Stock. Et Thomas Gomard, bonjour.
Bonjour Hervé.
Historien, directeur de l'IFRI, votre dernier livre, L'accélération de l'histoire, publié chez Talendier, vient de sortir en format poche. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord-Kivu, dévastée par des années de guerre et convoitée pour ses richesses naturelles. Les rebelles congolais du M23, soutenus par le Rwanda, mènent une offensive qui risque de replonger cette partie de l'Afrique dans le chaos. Mais pour commencer, retour sur les propos de François Bayrou cette semaine sur l'immigration. Un Premier ministre devrait-il dire ça ?
Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet.
Jusque-là, François Bayrou s'était plutôt tenu à l'écart des partisans d'un durcissement de la politique migratoire, que ce soit au sein de son gouvernement ou à la droite de celui-ci. Pas question pour le Premier ministre de remettre en cause l'aide médicale d'État, ni d'engager un référendum sur l'immigration, ou de faire voter une énième loi sur le sujet. Mais il a suffi d'un mot pour que le fragile édifice se fissure. C'était donc lundi soir, vous venez de l'entendre sur LCI. Les apports étrangers sont positifs pour un peuple, à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une subversion, dès cet instant-là, vous avez rejet. Alors, submersion, appliquée à la question migratoire, ce terme souffre d'une encombrante hérédité. C'est Jean-Marie Le Pen qui, en son temps, avait tenté de l'imposer dans le débat public. Un vocabulaire emprunté à l'extrême droite, donc, pour décrire une France noyée sous des flots d'immigrés, et dans le cas de François Bayrou, pour évoquer un sentiment, celui que ressentirait une majorité de Français à l'égard de populations qui ne partagent pas nos modes de vie ou notre culture. Alors, à gauche, le sang de ceux qui envisageaient de coopérer avec le nouveau gouvernement n'a fait qu'un tour. Pour le Parti Socialiste, qui paraissait disposé à ne pas voter à la censure, c'est un casus belli. Il se retire dans un premier temps des négociations budgétaires et exige que François Bayrou retire ses propos. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Le pari du Premier ministre semble être celui de l'opinion. Dans un sondage publié de cette semaine pour la chaîne BFM TV, une large majorité de Français lui donne raison. 74% des personnes interrogées estiment qu'il y a aujourd'hui dans la population française un sentiment de submersion migratoire. On remarquera au passage le caractère un peu ambigu de la question. Et tant pis si les statistiques démentent le ressenti. Les immigrés représentent près de 11% de la population. Ça n'est pas négligeable, évidemment. Ça n'est sans doute peut-être pas non plus une submersion. Mais François Bayrou conteste cet argument puisqu'il répond que les préjugés sont nourris par le réel. François Jomène, je commence avec vous. D'abord, est-ce que ça vous a choqué le fait que François Bayrou utilise ce terme de submersion pour évoquer la question migratoire ?
C'est tout le registre lexical en réalité qui est profondément dérangeant. Parce qu'il y a non seulement ce terme de submersion, il y a également celui d'apport étranger. On a l'impression qu'on discute ici de chiffres de la balance commerciale française. Et donc, ce vocabulaire, en réalité, il aboutit à une chose, c'est à déshumaniser profondément ceux et celles qui viennent d'ailleurs. Et ça permet, évidemment, d'avoir des politiques d'asile et d'immigration très déshumanisées, puisqu'on a l'impression qu'on ne discute même plus d'êtres humains. Et alors, on aura beau dire, tant qu'on veut, que les chiffres démentent cela, qu'il y a eu en 2023 326 000 permis de séjour délivrés par le ministère de l'Intérieur et que la hausse reste modérée, on est sur une hausse de l'ordre de 1,2% par rapport à 2022. Dès l'instant où c'est le Premier ministre qui accrédite au fond ce sentiment, ce préjugé, cette a priori, ça devient un fait politique. Et on sait que les politiques d'asile et d'immigration, elles se fondent généralement non pas sur des faits et des réalités, mais sur des préjugés, sur des sentiments, sur des sondages. Et donc on a l'impression de politiques qui sont décidées uniquement en fonction de ce que pense l'opinion, uniquement en fonction de considérations idéologiques. Et évidemment, lorsque le Premier ministre lui-même dit « ce qui compte, au fond, ce n'est pas la réalité, c'est le sentiment des gens, ce sont les préjugés qu'on en a », quand il dit « la réalité se nourrit des préjugés », lui-même fait quelque part basculer la politique dans une sorte de monde post-vérité, où l'on dit, au fond, il n'y a finalement que les préjugés, que les sentiments qui comptent, et la machine à sondage se met en branle, et c'est ça qui fait, au fond, que nous en discutons ce matin.
Est-ce que ça veut dire, pour autant, François Jomène, qu'il ne faut pas tenir compte de ces ressentis ?
Certainement pas. Mais la question, c'est de dire à quel moment est-ce que nous confrontons ces ressentis à la réalité, est-ce que nous essayons de comprendre pourquoi il y a ces ressentis ? Et très clairement, s'il y a ce ressenti dans certains endroits, c'est parce qu'il y a un déficit de politique d'intégration, c'est parce qu'il y a à l'évidence quelque chose qui est raté, y compris en termes de concentration de la population immigrée à certains endroits de France, singulièrement en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La question, c'est de se dire, est-ce que si ces ressentis ne correspondent pas à la réalité, est-ce qu'on va essayer de corriger ces ressentis ou est-ce qu'on va essayer de corriger la réalité ? À l'évidence, le gouvernement veut corriger la réalité plutôt que le ressenti.
Jean-François Colosimo, quel est votre ressenti, justement, à propos de ce ressenti ?
D'abord, je regrette un peu, parce que parmi les éminents chroniqueurs de cette émission ou invités, il y a Didier Lesky, qui est le directeur de l'Office de l'immigration, qui certainement aurait été plus à même de discuter ce sujet. Moi, je rejette le mot...
Qui est déjà intervenu, d'ailleurs, sur ces questions d'immigration dans l'émission.
Je rejette le mot submersion, mais en revanche, je trouve que le débat auquel on assiste est totalement déraisonnable. Qu'il y ait une question migratoire, c'est évident, enfin. N'est-ce pas ? Deuxièmement, effectivement, le Premier ministre a parlé d'un sentiment de submersion. Alors, pourquoi ce mot ? Peut-être parce qu'il pensait à l'extrême droite, plus sûrement parce qu'on avait évoqué le cas de Mayotte, et qu'il y a eu un cyclone à Mayotte, dont il revenait, n'est-ce pas ? Mayotte, dont la population est passée de 50 000 personnes à 350 000 en l'espace de 30 ans. Mayotte, où il y a effectivement un abus sur le droit du sol par les Comoriens alentour. Mayotte, qui est en fait aujourd'hui un immense bidonville sans infrastructure, Mayotte ruinée. Peut-être que c'est ça qui lui a fait venir ce mot, puisqu'il était face à Darius Rochebain, qui lui avait fait parler juste avant de Mayotte. Maintenant, la vérité...
Ce mot, il l'a assumé après, quand on lui a dit pourquoi l'avoir utilisé. Il n'a pas dit que c'était quelque chose qui m'est venu comme ça.
Certes, mais bon, j'allais dire, bon, évidemment, on voit mal des politiques faire de l'autocritique, n'est-ce pas ? Mais ce qu'on connaît aussi, c'est le fond démocrate chrétien humaniste de François Bayrou. Alors moi, je trouve que non, la politique des émotions, c'est une véritable politique. Ça a toujours été la politique. Je veux dire, penser qu'il y a de la raison qui pourrait être séparée de l'émotion dans les peuples, c'est totalement faux. Enfin, c'est une vision complètement technocratique de la politique, n'est-ce pas ? Et c'est justement quand on ne fait pas, on ne prend pas en compte ces émotions qu'on en arrive à des situations politiques catastrophiques avec la montée des extrêmes, tout simplement. Bon, alors... Oui, la France, c'est 11% d'immigrés, vous l'avez dit, Hervé, c'est-à-dire de personnes étrangères nées à l'étranger, dont un petit tiers a été, entre-temps, naturalisé.
Voilà, il faut rappeler, les immigrés, ce n'est pas la même chose que les étrangers, c'est-à-dire les étrangers sont des immigrés, tous les immigrés ne sont pas étrangers.
Absolument, voilà. Donc, ce que l'on sait, les chiffres là, c'est que... 48,2% d'entre eux viennent d'Afrique, et parmi ces 48,2%, plus de la moitié, 62% du Maghreb. 31% d'entre eux vivent au-dessous du seuil de pauvreté, une forme de paupérisation, connaissent le chômage, la concentration périurbaine, là où d'ailleurs dans ces périphéries, il n'y a plus, les structures qu'apportaient jadis l'Église catholique et le Parti communiste, n'est-ce pas ? Donc, avec des défauts aussi d'intégration qui ne dépendent pas que de l'État, mais qui relèvent de l'État de la société. On a un problème social qui est énorme, qui est effectivement un problème d'intégration, parce que cette population est largement, d'un faible niveau d'éducation et en fait ne dispose d'une employabilité qui n'est que véritablement malheureusement basse, n'est-ce pas ? Donc on voit bien qu'on a un problème social. À côté de ça, on a un problème culturel, c'est que effectivement, en raison de sa concentration africaine et nord-africaine, cette population a tendance à voir dans l'islam un repère identitaire. Or, le problème, et à regret pour moi, parce que moi je suis pour un islam de France, c'est que l'islam en France reste traité à la fois par le ministère de l'Intérieur, mais aussi par le ministère des Affaires étrangères, ce qui accuse encore plus une extranéité, malheureusement, encore une fois, en dépit d'efforts de quelques valeureux imams intellectuels, universitaires, mais bon, on voit bien que ça suit mal. Donc vous avez un problème social, un problème culturel, et puis un problème culturel, vous avez un problème étatique, qui est l'effondrement des biais d'intégration, l'école, le travail, etc. Par rapport à ça, juste pour conclure, moi, je trouve que c'est bien parce que une certaine gauche a abandonné le social et le culturel, n'est-ce pas ? Que, en fait, on risque de se retrouver un jour, ce que je ne veux pas, avec le Rassemblement National au pouvoir. Donc, continuer à nier les problèmes, n'est-ce pas ? Il n'y a pas que Mayotte, la Seine-Saint-Denis, c'est 32% d'étrangers. Continuer, ou Provence-Côte d'Azur, comme le disait François, où il y a aussi une forte proportion. Continuer à nier tout ça, à ne pas voir le traité, abandonner ces populations à leur sort, par ailleurs, etc., bah, c'est ce qui donne cette espèce un peu de psychodrame, puisque, en fait, depuis longtemps, avec Lionel Jospin, la reddition sur le voile lorsqu'il était à l'Éducation nationale, la reddition sur l'économie lorsqu'il était, en fait, à Matignon, on a une gauche qui a perdu ce repère du réel, à mon sens, et donc qui pousse des cris d'orfraie pour attraper, en quelque sorte, son manque de réalisme.
Sylvie Kaufmann, vous parleriez aussi de psychodrame. Est-ce que la gauche a eu raison ou tort de s'indigner des propos tenus par François Bayrou ?
Il y a la forme et il y a le fond. Hein. Donc sur la forme, effectivement, ce mot de subversion, je crois qu'on est tous d'accord, c'était pas le bon mot à utiliser parce qu'il appartient à d'autres. Et,
Surtout en période d'inondation, on est des vilaines.
Bon, mais non, mais je pense que ça, c'était vraiment, c'était une erreur. C'était une erreur voulue et assumée puisque, comme vous l'avez rappelé, il a réutilisé le lendemain. Mais il y a d'autres termes dans son intervention à LCI que je trouve malheureux. Enfin, le choix de la description qu'il fait de l'immigration. Hein, vous en avez cité une partie. Les apports étrangers pour un peuple sont bénéfiques à condition que ça ne dépasse pas un certain seuil. Seuil, par ailleurs, je vous rappelle que c'est une expression utilisée par Mitterrand. Hein, il y a un seuil de tolérance sur l'immigration. Donc, les apports étrangers sont pour un peuple sont bénéfiques. Il parle aussi de la rencontre des cultures, c'est bien. Mais
en quoi c'est gênant ça ?
C'est pas gênant, c'est
il peut y avoir une approche utilitariste de l'immigration.
Non, ça n'est pas gênant, c'est totalement incomplet. L'immigration, d'un point de vue démographique, elle est aujourd'hui non seulement inévitable parce que c'est un phénomène mondial de mouvement des populations dont on ne peut pas rester à l'écart, et elle est aussi indispensable parce que il y a une lecture assez passionnante qui est celle du dernier rapport de la division de la population de l'ONU. Et là, on apprend que contrairement à une idée très répandue, la population mondiale augmente, mais elle va décliner. Hein, c'est-à-dire là, aujourd'hui, on est 8,3 milliards d'individus sur la Terre. Cette population va atteindre un pic en 2070, un pic de 10,3 milliards, et puis à partir de là, elle va commencer à décliner. Pourquoi ? Parce que le taux de fécondité est en baisse partout dans le monde, sauf dans la région subsaharienne de l'Afrique. Mais partout ailleurs, le taux de fécondité est en train de baisser. Le Mexique, l'année dernière, a eu un taux de fécondité inférieur à celui des États-Unis. Donc on a vraiment une tendance lourde qui, bien sûr, s'étale sur des décennies. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a des énormes conséquences sur la pyramide des âges. Et en Europe, notamment, où on cumule la baisse de la natalité et la hausse de l'espérance de vie, ça veut dire que le lien de dépendance entre actifs et non actifs évolue d'une manière qui est totalement négative.
C'est donc il faut encourager l'immigration.
Voilà, donc je vous donne un exemple. En 2013, la charge des personnes de plus de 65 ans et d'une personne de plus de 65 ans était répartie sur 3,3 personnes. Dix ans plus tard, en 2023, elle est répartie sur 2,75 personnes. Et donc en 2070, ça sera sur 1,7 personnes. Et en Chine, on va avoir la même tendance. Ça veut dire que les Chinois, dans quelques décennies, seront en concurrence avec l'Occident pour la migration. Parce que quand on a une population qui vieillit autant et qui reste en bonne santé, il faut pouvoir financer ce vieillissement. Et ce vieillissement de la population, qu'est-ce qu'il y a comme levier pour faire face? Il y a la technologie, les robots, c'est ce que fait la Corée du Sud ou le Japon. Il y a allonger la durée du travail, travailler plus tard. On voit où en est ce débat en France actuellement, et je pense qu'on n'est pas mûr pour y arriver. Et donc le troisième levier, c'est l'immigration. Et donc cette immigration, donc comme je disais, elle est non seulement inévitable, elle est aussi indispensable, et il faut l'organiser. Et c'est là qu'on est, on arrive dans notre débat. Et c'est là, je regrette, vous parliez de la gauche tout à l'heure, je regrette qu'on ne profite pas de cette polémique sur un mot pour se plonger dans les vrais débats de fond sur comment organiser cette immigration, comment faire face à ce sentiment qui est réel, puisqu'on le voit bien dans les sondages, hein, 65% dans l'enquête Fracture française, 65% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers en France. Donc il faut vraiment, je trouve, s'attacher à ce débat, mais de manière sérieuse et raisonnable. Juste pour terminer sur ce chiffre, il est de 65%, il existe trop d'étrangers en France, il est en baisse par rapport à 2013. En 2013, 70% des Français pensaient qu'il y avait trop d'étrangers. Et inversement, il y a plus de Français aujourd'hui qui pensent que l'immigration est nécessaire pour l'économie française. Donc on peut-être débattre de tout ça sérieusement.
Thomas Gomard, est-ce qu'il faut considérer que l'immigration est indispensable à court, moyen et long terme? Et si oui, comment est-ce qu'on fait pour justement organiser, comme le disait Sylvie Kaufmann, un débat apaisé autour de ces questions, quand on voit quand même, malgré tout, même si alors témoigner de ce sondage qui est un peu en baisse, ça reste quand même ressenti comme quelque chose de très problématique par une majorité de la population française?
Je ne sais pas si elle est indispensable, mais c'est un peu comme la globalisation, ça existe. C'est-à-dire que les flux migratoires, à partir du moment où, même s'il y a un vieillissement qui apparaît, augmentent en termes généraux dans toutes les parties du monde, avec des phénomènes plus ou moins accentués entre régions. Donc, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur l'analyse macro. Le vrai problème, il est dans le décalage entre le macro et la manière dont c'est perçu, précisément. Ça me conduit à faire deux commentaires. Je pense que le décalage réel perçu, il est au centre, valeur réelle, valeur perçue. C'est comme ça qu'on fait du marketing, et c'est parce qu'il y a des émotions qu'on fait de la politique. Donc je pense que c'est précisément important de relier les deux. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que la mondialisation a été justifiée de manière très macro par le fait de faire sortir de l'extrême pauvreté à peu près 1,2 milliard de personnes à l'échelle globale. C'est pas du tout vécu comme ça par des pays industrialisés et des classes moyennes des pays industrialisés qui considèrent désormais, à tort ou à raison, mais que la mondialisation explique leur appauvrissement et produisent des phénomènes politiques de polarisation qu'on observe aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que réel perçu, en réalité, François Bayrou, c'est un homme politique, c'est pas une surprise, et qu'à mon avis, il sait très bien ce qu'il fait en utilisant ce terme-là. On peut le déplorer par rapport au registre auquel il se rattache, mais il prend acte du fait de deux choses, c'est qu'il y a 143 députés du Rassemblement National à la Chambre, et qu'il y a les sondages que l'on a déjà évoqués. Donc moi, je pense que c'est pas du tout, comment dirais-je, une erreur. Je pense que c'est voulu de sa part, et le fait qu'il réinsiste ensuite à ce point, à mon avis, va dans ce sens.
Est-ce que c'est habile?
Alors ça c'est la grande question. Ça me conduit à mon deuxième point. Moi, ce qui m'a frappé dans cette polémique, au-delà encore une fois de l'effet trompe-l'œil par rapport aux vraies questions telles que les posait Sylvie, en fait, c'est la réaction du Parti Socialiste qui est très intéressante, je trouve. C'est-à-dire, est-ce de l'immaturité? par rapport à la situation politique dans laquelle nous sommes, de ne pas arriver à un budget. C'est-à-dire qu'on peut se dire, c'est quand même assez fascinant de se rendre compte qu'on a besoin d'éléments budgétaires, d'un minimum de stabilité, précisément pour pouvoir conduire des politiques publiques d'intégration et d'autres, et qu'on est depuis maintenant presque 6 mois dans une sorte d'impasse qui pourrait perdurer d'une certaine manière, avec des conséquences économiques, à mon avis, qui se rapprochent et dont probablement l'opinion on n'a pas la pleine conscience. Bon. Et la réaction, en fait, de relier tout de suite de la part du Parti Socialiste pour certains de ces éléments sur cette formule, la discussion sur l'aspect budgétaire, me semble très, très, très intéressante à relever, en réalité. C'est-à-dire que, au fond, est-ce que c'est vraiment le sujet du moment par rapport, encore une fois, à la gravité de la situation économique et sociale dans laquelle nous sommes?
Eh bien, on va poser la question à François Jemaine. Est-ce que vous voyez de l'immaturité dans le fait, dans l'attitude qu'ont eu en particulier les socialistes français, François Jemaine, de faire dépendre leur neutralité, disons, par rapport à une éventuelle motion de censure contre le gouvernement Bayrou, de ces propos tenus par le chef du gouvernement, alors qu'effectivement, l'enjeu est quand même extrêmement important, qui est celui de doter la France d'un budget?
Alors, je serais absolument d'accord sur le fait que l'enjeu sur le budget et sur d'autres sujets semble plus important. Cela étant, le reprocher aux socialistes, il me semble que ça leur fera mauvais procès. Avant tout, c'est François Bayrou qui prononce ce terme et qui sait bien évidemment qu'il franchit une ligne rouge à l'égard de ses partenaires dès lors qu'il prononce ce terme. Et on sait pourquoi il le prononce, évidemment, c'est pour flatter les instincts des députés du Rassemblement National qui sont présents en nombre à l'Assemblée. Jean-François Colosimo a dit quelque chose d'important. On ne peut pas gouverner en faisant complètement abstraction des émotions. La politique, ce n'est pas uniquement des faits de la rationalité, c'est aussi des émotions. Et dès lors, on peut se demander si le rôle du Premier ministre consiste à exciter et à exacerber ses émotions de peur, d'anxiété ou de colère, ou précisément à essayer de les apaiser et de les rassurer. Il me semble que le rôle des démocrates, c'est précisément d'essayer de rassurer la population par rapport aux peurs et aux anxiétés qu'elle peut avoir. Le rôle des populistes, à l'inverse, c'est de les exacerber en espérant capitaliser là-dessus. Sylvie Kaufmann a dit quelque chose d'important aussi, un verbe qui me semble très important, organiser. Nous sommes encore aujourd'hui dans une logique de résistance face aux migrations. Comme si on est coincé dans une sorte de paradigme de l'immobilité qui voudrait que dans un monde idéal, chacun continue à résider à l'endroit dans le pays où il est né, où elle est née. On sait bien que les migrations ont toujours existé et qu'une optique de résistance aux migrations est par nature vouée à l'échec. Et donc je crois que ce qu'on doit faire en démocratie, si on veut précisément essayer d'apaiser le débat sur ce sujet, c'est d'essayer de voir comment on peut l'organiser en raison à la fois des besoins économiques, démographiques du pays, en raison aussi des situations dans les pays d'origine, et je suis désolé de le dire, mais en considérant quand même aussi ceux à qui ça s'adresse. Il se trouve que je suis un étranger né à l'étranger, et que donc lorsqu'on parle de submersion migratoire, d'une certaine manière, ce terme il s'adresse à moi aussi. Comment est-ce que je le ressens moi, comme tous les gens étrangers qui sont nés à l'étranger dans ce pays? Alors vous allez me dire, mais non, Jemaine, évidemment, on ne parle pas de vous. Vous êtes blanc, catholique, diplômé, européen, etc. Évidemment qu'on parle uniquement des Noirs et des Arabes. Mais alors, il faut assumer l'implicite raciste de cette expression.
Jean-François Colosimo.
Oui, là, je crois qu'on est dans des exagérations, mon cher François. J'en suis désolé, je veux dire. Hein. C'est exactement ça, n'est-ce pas? Si on pose un problème, c'est qu'on est raciste. Non, il faut être un peu sérieux quand même. Les problèmes
existent. Mais il y a la manière dont on le pose.
Les problèmes, et c'est vous qui faites d'ailleurs là une politique de préjugés, n'est-ce pas? Je veux dire, donc vous tombez dans le reproche que vous faites à François Bayrou. La vérité, c'est que l'Europe, c'est le principal lieu de migration légale et d'immigration illégal dans le monde.
Non, aujourd'hui, c'est les pays du Golfe.
Attendez, je finis. À proportion. Je ne crois pas que l'Arabie Saoudite soit un grand pays d'immigration, mais les Émirats emploient une main-d'œuvre. On sait dans quelles circonstances. Et je crois qu'il y a peu de naturalisation dans le Golfe. Donc, restons un peu là sur des réalités. En fait, on accueille plus de gens que les autres continents, que l'Afrique, que l'Asie, que l'Amérique du Sud, et on se rapproche en fait de cette région qui reste une région de peuplement encore, qui est l'Océanie, avec l'Australie, et la Nouvelle-Zélande. Par rapport à ça, il est évident qu'il y a un véritable débat qui est que, d'une part, effectivement, il y a au moins un besoin caractérisé par les industries, et dans ce cas-là, d'ailleurs, c'est peut-être elles qui sont racistes, mais d'une main-d'œuvre à bon marché pour remplacer, en fait, les populations locales qui ne veulent plus exercer ce genre de travaux. Et d'autre part, le fait qu'on ne soit pas sûr du tout que l'avantage économique suffise, en fait, à stabiliser des situations dont on le voit, qui deviennent, au moins dans la représentation, des situations critiques d'un point de vue politique. Voilà. Ça, il me semble, c'est l'évidence. Maintenant, pour ce qui est d'organiser et de réguler, moi, je trouve pas que la France soit si mal organisée. On a délivré l'année dernière 323 000 titres de séjour. Ben, il faut, arriver à le faire, déjà, administrativement. Mais 323 000 titres de séjour, c'est une population assez importante. Quel est le devenir de cette population en termes de logement, en termes de travail, en termes d'intégration, en termes de scolarisation pour les enfants, etc. C'est là où il y a un véritable problème. Je ne crois pas que ça soit la gestion des flux migratoires qui soit une question, par exemple, en France. C'est la suite, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Et c'est là où on voit naître, effectivement, je dirais, ce sentiment, encore une fois, que moi je ne qualifierais pas de submersion, je ne crois pas qu'il y ait submersion, mais ce sentiment qui est un sentiment qu'il revient aux politiques de traiter pour ce qu'il est, ni en l'exacerbant, mais ni non plus, je dirais, en l'administrant au soporifique. Parce que, dans notre histoire, juste je finis là-dessus, le meilleur exemple de la politique des émotions, très bien décrit par Sophie Vanish, c'est que tous les atermoiements de l'après-1789 aboutissent à 1793, n'est-ce pas ?
Sophie Vanish, historienne de la Révolution française. Sylvie Kaufmann, est-ce que cette approche peut-être alors un peu moins, émotionnelle de cette question de l'immigration, ça passe aussi par l'utilisation des mots, ou en tout cas par le fait de ne pas en utiliser certains. Alors on évoque cette submersion, mais il y avait, pour préparer l'émission, là je suis tombé sur un article très intéressant du quotidien Ouest-France qui relevait d'autres exemples ces dernières années de vocabulaire empruntés en partie à l'extrême droite. Emmanuel Macron qui a parlé de décivilisation ou de programme immigrationniste pour parler par exemple du programme de la France insoumise. Il y a eu Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui parlait de français de papier. Est-ce qu'il faut aussi peut-être proscrire certains vocabulaires pour essayer de ramener un peu de calme et de raison dans ces débats ?
Oui, peut-être. En même temps, c'est vrai que les émotions comptent dans la politique et le sentiment amène les gens à voter d'une manière ou d'une autre. Très souvent, enfin, en tout cas, ça contribue largement. Tout le monde ne vote pas toujours rationnellement. Donc, on peut pas. Bien sûr, les mots comptent, les mots ont un sens, mais je pense que les faits sont encore plus forts. Et donc, il faut regarder ce qui s'est passé, ce qui se fait à l'étranger aussi en termes de politique d'intégration. C'est quand même ça la clé. C'est à partir du moment où on sait que l'immigration est un fait majeur de nos sociétés et de nos économies. Donc, il faut arriver à l'organiser et à faire en sorte que les gens n'aient pas ce sentiment. Alors, bien sûr, on peut agir sur les nombres. C'est une chose. Mais ensuite, dans la manière dont notre société est organisée, il faut arriver à faire en sorte que les gens n'aient plus les deux tiers de la société qui aient le sentiment qu'il y a trop d'étrangers en France. Si on regarde, vous voyez, des pays comme en Scandinavie, vous prenez la Suède, le Danemark, qui ont été des pays extrêmement accueillants, qui ont eu des politiques d'accueil d'étrangers, de réfugiés, d'immigrés généreux, qui sont des pays qui ont des systèmes sociaux solides, etc. Ils sont arrivés à un seuil où ça craquait et où l'extrême droite les a obligés, la montée de l'extrême droite les a obligés à dire finalement nos politiques ont échoué et on va s'y prendre autrement. Et donc à freiner énormément. Il faut essayer de tirer les leçons de ces expériences. Il faut regarder aussi ce qui se passe au Canada, par exemple, qui a une politique d'accueil. Pour eux, c'est vraiment, pour la population canadienne, c'est vraiment indispensable. L'immigration est absolument indispensable. Pendant l'année du Covid, Covid, où elle s'est arrêtée, ça a été dramatique. Ils ont eu un énorme problème de pénurie de main-d'œuvre et de ressources démographiques. Mais ils ont des politiques d'intégration extrêmement organisées sur l'apprentissage de la langue, sur les lieux géographiques où les immigrés vont s'installer, sur les exigences professionnelles, les exigences de compétences. Voilà. Alors peut-être qu'on peut dire qu'ils ont des points d'entrée qui sont plus faciles à contrôler que ceux de l'Europe ou de la France. Mais il y a des choses, des leçons qu'il faut tirer de toutes ces expériences, en plus des mots auxquels il faut faire attention.
Thomas Gomard.
Oui, ça, sans doute, faut, à mon avis, essayer de distinguer ce qui relève du débat politique, du débat intellectuel sur ces sujets, dans l'usage des mots. Moi, ça m'inspire peut-être trois remarques rapides. La première, c'est sur l'impression de déshumanisation que ce terme utilise. Je pense qu'il faut aussi le voir un peu différemment. C'est-à-dire que quand nous-mêmes, on est tous migrants en puissance, en fait. Et quand on se retrouve face à d'autres systèmes de migratoires, on se rend compte que le système européen n'est pas déshumanisant. Pour le dire autrement, je voyage beaucoup, je vais dans des pays arabes, l'interrogatoire qui est poussé est extrêmement poussé. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut peut-être aussi relativiser cette impression d'une Europe qui accueillerait mal. Elle l'accueille probablement imparfaitement, mais à mon avis, le respect de la personne reste central. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je reviens sur le Parti Socialiste. Parce que, au-delà de ce que je considère être une forme d'inconséquence par rapport à la situation générale, il y a aussi son problème politique fondamental. Jean-François Colodimo en a dit un mot, c'est-à-dire, je ne sais pas combien il y a de députés socialistes actuellement, il y en a 70, 143 du Rassemblement National, précisément parce que cette question migratoire a été, à mon sens, occultée ou abordée uniquement sous l'angle de, il faut que les frontières soient toujours ouvertes, les flux sont irrésistibles et c'est ainsi, d'une certaine manière. Or, c'est pas comme ça que les gens réagissent, pensent. On peut le déplorer d'une certaine manière quand on est dans une approche très très globale et de compréhension de la mondialisation. Mais c'est pas du tout comme ça que les personnes conçoivent aussi leur citoyenneté. Je pense elles la conçoivent par rapport à un territoire. Et le dernier élément, à mon avis, qui est un élément de contexte dont on n'a pas parlé, qui est important, c'est que tout ça intervient aussi dans ce positionnement par rapport à 2027. Par rapport à l'émergence de quelqu'un comme Bruno Retailleau, lequel aujourd'hui est dans une posture où il dénonce des influenceurs binationaux et algériens qui sont dans une logique extrêmement vindicative par rapport à la France. Et je pense que ça participe peut-être aussi de ce sentiment exprimé par le Premier ministre, c'est qu'il y a tout l'aspect intégration qui fonctionne plus ou moins, mais il y a aussi des éléments très isolés, très minoritaires, mais qui sont dans un discours d'hostilité affiché à l'égard de la France, qui, à mon avis, est de plus en plus mal ressentie par l'opinion.
Voilà, et on passe à notre deuxième sujet, les 11h32 sur France Culture, avec cette allocution du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. C'était mercredi dernier.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix.
Sur le papier, le rapport de force est plus que déséquilibré. Avec une superficie de 26 000 km², le Rwanda est 90 fois plus petit que sa grande voisine, la République démocratique du Congo. C'est encore vrai s'agissant des ressources militaires, même si l'écart se resserre. 33 000 soldats côté rwandais, 134 000 côté RDC. Et pourtant, c'est le petit qui fait trembler le grand. Après avoir conquis la grande ville de Goma au nord Kivu dans l'est congolais, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, progressent désormais vers la ville de Bukavu, où l'armée congolaise se trouve en difficulté. Celle-ci est pourtant soutenue par les casques bleus de la MONUSCO et par les troupes africaines de la SADC. Mais c'est bien la partie adverse qui se trouve en position favorable et qui vise désormais la capitale Kinshasa à plus de 2000 km de là. Alors pourquoi de tels combats? Si ces derniers ont débuté il y a 3 ans. La matrice est plus ancienne. Il s'agit du génocide de 94 au Rwanda. Le M23 assure vouloir protéger les populations tutsies congolaises des exactions commises à leur encontre par les anciens génocidaires Hutus réfugiés en RDC. De leur côté, les autorités congolaises accusent les rebelles et leurs parrains rwandais de vouloir faire main basse sur les richesses du Nord Kivu, à la fois les minerais et les ressources forestières particulièrement abondantes. Alors ce face-à-face mortifère entre les deux pays et leurs deux présidents, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, risque-t-il de tourner en guerre régionale? Les chancelleries africaines et occidentales s'inquiètent. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a fait le voyage à Kinshasa, puis à Kigali pour tenter de trouver une issue à la crise. L'ONU s'alarme d'une nouvelle catastrophe humanitaire dans cette région déjà meurtrie par des années de conflit. Car une chose est sûre, ce sont une fois de plus les populations civiles qui vont payer le prix fort. Et on en discute toujours en compagnie de Jean-François Colosimo, Thomas Gomard, Sylvie Kaufmann et François Jemaine. François, je commence à nouveau avec vous sur la dimension peut-être humanitaire de ce conflit. Le Nord Kivu, à la fois confronté à des exactions, à des crimes, à la guerre. On a l'impression qu'il y a presque une forme de malédiction pour l'Est de la République démocratique du Congo.
Ça fait plus de 20 ans que ça dure, ça fait plus de 20 ans qu'il y a une guerre larvée dans cette région. Si vous ajoutez à ça les éruptions volcaniques qui ont aussi déplacé des dizaines de milliers de populations, effectivement on a l'impression d'une population qui est en situation de crise humanitaire permanente. Alors, la question c'est évidemment comment en sortir. On a l'impression effectivement d'un silence un peu assourdissant et de la communauté internationale, et singulièrement, je suis désolé de le dire, de l'Union africaine, qui devrait être en première ligne pour répondre à cette crise. On le sait, les militaires du M23 sont soutenus par les forces armées rwandaises, au point qu'on peut se demander si dans les 34 000 forces armées rwandaises, il ne faut pas inclure aussi les militaires du M23. Moi, la situation me rappelle quand même, je suis désolé de le dire, la situation qu'on a connue en Ukraine il y a maintenant près de 3 ans, où on a aussi un État qui envahit l'Est d'une région, où on a aussi les mêmes accusations, l'un des bergers des génocidaires Hutus, de l'autre côté c'était des bergers des nazis. Et la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir se permettre de ne pas réagir à la situation dans le Nord Kivu alors qu'on a réagi à la situation en Ukraine? Est-ce qu'on va pouvoir se permettre ce deux poids deux mesures? Ça me paraît quand même très très délicat sur le plan diplomatique et sur le plan moral.
Même si notamment les pays du G7 ont condamné ce qui est en train de se dérouler dans cette région. Thomas Gomard, pour bien comprendre d'ailleurs ce qui est en jeu, alors on entend parler de guerre liée aux ressources minières de la région du Nord Kivu. Le M23 dit non, nous on est là pour défendre les Tutsis congolais qui sont soumis aux anciens génocidaires Hutus qui ont trouvé refuge en RDC. Est-ce qu'il y a un petit peu de tout ça d'ailleurs dans ce conflit?
Ouais, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parle de la RDC fondamentalement en fonction de sa géographie et de ses richesses naturelles, beaucoup moins en fonction de son histoire. Je me suis fait la réflexion là en préparant l'émission et en reprenant le livre de David Van Reybroek que je conseille à tout le monde, Congo, une histoire de 2010, où il conclut précisément sur ce point, en rappelant à quel point l'histoire du Congo est aussi le reflet des siècles, et en particulier la colonisation, propriété personnelle de Léopold II, le fait que la guerre froide en Afrique commence au Congo, que c'est la première grande opération des Nations Unies qui va aussi échouer, et puis ensuite, pas tout rappeler, mais effectivement l'importance des conséquences du génocide au Rwanda et les guerres des Congolaises, 6 millions de morts quand même, effectivement. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de suivre ce sujet, au-delà même de la manière dont ça pourrait évoluer prochainement. Le deuxième point, c'est ce qui est quand même très frappant, c'est deux choses. C'est ce qui est devenu le Rwanda, en fait. Précisément, ce qu'est devenu le Rwanda et la manière dont Paul Kagame a su, d'une certaine manière, instrumentaliser la mémoire du Rwanda pour atténuer toute forme de critique à son égard. Comment ce pays, il y a une sorte, avec beaucoup de guillemets, apparaît comme un miracle de développement économique dans la région, est devenu, certains parlent d'une forme de Prusse Oui, vous avez donné le nombre de soldats, sauf que ce sont des soldats entraînés, commandés, équipés, par rapport à une armée congolaise qui est l'agglomérat de forces armées qui, au fond, tiennent des points, des mines en particulier, et qui n'ont absolument pas d'organisation commune, parce qu'il n'y a pas d'État, en fait. Alors, il y a un État au Rwanda. Voilà. Et donc, il y a une armée, et ça se retrouve dans la manière de faire la guerre. Pour ma part, je ferai pas le parallèle avec l'Ukraine comme François nous y invite, pour des tas de raisons. Le Rwanda n'est pas encore une puissance nucléaire, notamment, ce qui explique peut-être pas mal de choses dans la réaction des Européens dans le soutien à l'Ukraine. Mais en revanche, sur la gravité de ce qui s'y passe, et la question que je me pose, c'est pourquoi ça intervient maintenant, en fait. Pourquoi ça, et à mon sens, c'est le signe du dérèglement complet du système international dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que paralysie du système onusien, pour d'autres, liées à d'autres régions, jeu des acteurs extérieurs qui, quoi qu'on en dise, reste extrêmement important, et en particulier celui de la Chine, des États-Unis qui se désintéressent de plus en plus, en fait, du continent africain, et je pense que ça va aller s'accentuant avec l'administration Trump. Et puis, encore une fois, à mon avis, une volonté de Paul Kagame de pousser son avantage, précisément en comprenant très bien que la perspective de réaction de la dite communauté internationale est, dans le contexte actuel, extrêmement faible.
Mais vous parlez, encore un mot, Thomas Gomard, d'instrumentalisation de la part du Rwanda. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des raisons pour les Rwandais d'être inquiets du sort des Tutsis congolais? Il y a 2-3 ans, je crois, un rapport de l'ONU qui a alerté déjà quand même sur les violences contre les Tutsis au Congo. Alors, violence engendrée aussi, semble-t-il, par les actions des rebelles du M23, mais on peut aussi comprendre qu'il y a une forme de réelle inquiétude.
Bien sûr, mais ça, c'est un argument qui est très recevable de la part du Rwanda depuis 1994. Ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a une singularité du Rwanda sur le continent africain, et je pense aussi à une difficulté pour les Européens à se positionner. J'évoquais l'aspect mémoriel, mais qui est secondaire par rapport aussi à l'Union européenne. En février 2024, signe un accord avec le Rwanda pour la stabilité des chaînes de valeur et les approvisionnements en minerais. Bon, bah, ces minerais, en fait, d'où viennent-ils? Voilà. Donc il y a aussi une forme d'ambiguïté, à mon sens, européenne, qui est révélée à la faveur de cette reprise des hostilités.
Est-ce que ça fait presque bénéficier le président rwandais Paul Kagame, Sylvie Kaufmann, d'une forme d'immunité diplomatique? C'est-à-dire, il y a aussi une gêne de la part des Occidentaux, et peut-être en particulier de la France, par rapport à ce qui s'est passé en 1994, qui fait que c'est compliqué, en fait, d'avoir une position assez ferme à l'égard des exactions du M23 et de l'armée rwandaise.
Oui, je crois qu'il y a ce facteur incontestablement. Tout ce conflit est issu, en fait, du génocide et de 1994. Donc, à la fois, les raisons locales, la façon dont Kagame essaye de justifier ce qui se passe en disant les Tutsis sont menacés par les génocidaires Hutus qui se sont réfugiés dans l'est du Congo, et puis en ce qui concerne l'attitude des pays européens, en effet, qui continuent à garder ce facteur du génocide dans leur raisonnement ou dans leur attitude. Mais je crois qu'il y a aussi il y a d'autres facteurs. Donc c'est vrai que si on cherche un exemple de cette accusation de deux poids et deux mesures que le Sud global formule à l'égard de l'Occident, ça c'est un excellent exemple, parce que comme vous l'avez dit, ça fait un peu plus de 3 ans que ce mouvement M23 progresse dans l'est du Congo, dans le Nord Kivu. Maintenant, et c'est uniquement parce que Goma est tombé que tout d'un coup on se réveille et on s'inquiète de ce qui se passe. On a parlé de comme conflit occulté du Soudan, mais on ne parlait pas du tout de ce conflit en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thomas sur le fait que c'est révélateur de l'effondrement ou du dérèglement de notre système international. En 2012, déjà, le M23 avait pris Goma. Hein, et là, la communauté internationale a réagi, notamment sous l'impulsion des États-Unis. Les Américains ont pesé et ils se sont retirés. Et cette fois-ci, il ne se passe rien. Donc, pourquoi ? Parce que, entre-temps, en effet, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie, s'est emparé d'un territoire qui est l'Ukraine et que, pour l'instant, on n'arrive toujours pas à faire face à ce conflit. Qu'on a maintenant un président américain qui dit « je vais m'emparer du Groenland, je vais m'emparer du Panama, je vais m'emparer de je ne sais quoi ». Donc, on a quand même deux grandes puissances. On a aussi la Chine qui n'est pas tout à fait, enfin, qui menace Taïwan. Donc,
il y a quand même les casques bleus qui
alors les casques bleus, il y a 15 000 casques bleus qui n'ont pas un mandat clair, qui sont dans une position purement défensive. Et d'ailleurs, le président congolais avait même demandé leur retrait, mais enfin, de toute façon, visiblement, leur mission n'est pas efficace. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on a effectivement là une situation où les grands acteurs internationaux n'ont pas envie ou n'ont pas les moyens d'intervenir directement. Alors, vous avez cité quelques initiatives diplomatiques, Jean-Noël Barrot qui est allé sur place, David Lammy, le secrétaire au Foreign Office, le ministre des Affaires étrangères britannique, a téléphoné à Kagame, Marco Rubio, le nouveau chef de la diplomatie américaine aussi, mais enfin, pour l'instant, on voit pas trop ce que ça donne. Il y a une autre chose, vous mentionnez cette espèce de respectabilisation de Kagame, qui est quand même au pouvoir depuis 30 ans, hein, jusqu'à 2034, si j'ai bien compris, puisque lui aussi, suivant une pratique qui devient assez habituelle maintenant, il a modifié la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir encore très longtemps. Il a non seulement une économie qui s'est transformée, qui s'est métamorphosée et qui fait figure de modèle, en fait, à l'échelle continentale africaine aujourd'hui, il a aussi une armée qui est extrêmement efficace. Il est le deuxième, le Rwanda est le deuxième pourvoyeur de casques bleus pour l'ONU. Et puis il a aidé à chasser les djihadistes du Mozambique dans une région où Total Energy a des investissements qui sont pour l'instant paralysés d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc c'est un acteur. Il s'est imposé comme un acteur important. Et ça, plus le facteur psychologique dont on parlait tout à l'heure, fait que aujourd'hui ça explique peut-être en partie la paralysie des acteurs internationaux.
Paul Kagame, Jean-François Colosimo, devenu un acteur incontournable et auquel il est compliqué aujourd'hui de s'opposer.
Oui, alors moi je voudrais dire d'abord que je comprends bien les bémols qu'apporte Thomas, mais lorsque François dit qu'en fait on a affaire dans le Kivu à un conflit entre deux États souverains où il y a l'exploitation en fait, d'un problème ethnico-linguistico-mémoriel, enfin, etc. Je pense que dans ce cas-là, la comparaison, je le dis, vaut. Et parce que, en fait,
le M23
n'existe pas sans le Rwanda, tout simplement. Je veux dire, il n'est pas endogène, il dépend complètement du Rwanda. Et d'ailleurs, on sait que c'est un mouvement qui réussit parce qu'il est surarmé par le Rwanda, qui dispose en fait d'un encadrement hyper sophistiqué. En fait, on a plus affaire quand même à une milice relevant de Kigali qu'à un mouvement populaire spontané qui se serait d'un coup déclaré sécessionniste. Quant à Paul Kagame, il est à la tête, c'est tout le problème. Ça a été, je dirais, occulté, éclipsé, évidemment, par le génocide rwandais. Mais depuis, au Rwanda, on a un homme solitaire qui exerce en fait un régime autoritaire, un régime répressif, un régime policier et un régime prétorien, n'est-ce pas ? Très militarisé, comme l'a dit Sylvie, n'est-ce pas ? Alors effectivement, le Rwanda se promet d'être en quelque sorte un gendarme disponible pour établir l'ordre. Des fois, ça arrange la communauté internationale dans le cas du Mozambique. Des fois, ça arrange un peu moins la communauté internationale, par exemple, dans le cas de la RCA en 2020. Et puis, des fois, c'est vraiment de l'ingérence.
La RCA, complète. Pardonnez-moi.
La République Centrafrique. Et parfois, c'est véritablement de l'ingérence avec des buts, en fait, de prédation territoriale, économique, et avec un fort ressort, malgré tout, ethnicisant, comme au Kivu. Ça, je pense que c'est une réalité. Donc, en fait, vous savez, c'est ce que disait George Steiner. Le XXe siècle, ça a été le siècle où on pouvait écouter Mozart à midi et torturer à 14 heures, n'est-ce pas? C'est cette forme de contradiction anthropologique. On peut avoir été opprimé, on peut avoir été décimé, et on peut, en fait, ensuite être oppresseur. Il n'y a pas de règle de ce point de vue-là. Et pour finir, ce pays, le Rwanda, où les droits de l'homme sont piétinés, n'est-ce pas, pour lier avec notre conversation de tout à l'heure, c'est aussi un pays qui se propose de faire du gardiennage pour le Royaume-Uni, qui expédierait ses migrants.
Pour le Danemark aussi.
Et pour le Danemark aussi. Donc, tout de même, je veux dire, voilà quel est ce qui n'empêche pas la cruelle réalité du génocide, n'est-ce pas, des Tutsis par les Hutus, tout ça. Mais il y a aussi cette autre vérité, et l'une ne saurait exonérer l'autre de ces vérités. Et aujourd'hui, donc, ce Rwanda, eh bien, il est particulièrement soutenu par la Russie, il est particulièrement soutenu par la Turquie. La Chine a d'autres intérêts parce qu'il y a tout le problème des minerais qui servent aux composants du Kivu, et donc la Chine là-dessus n'est pas en accord. Mais en fait, vous voyez bien que Turquie, Chine,
Qatar aussi.
Et peut-être par le Qatar aussi. Ouais. Et donc, vous voyez bien que ces nouveaux pays qui en fait entendent aujourd'hui dépecer l'Afrique trouvent en fait dans les ambitions propres au Rwanda un puissant levier. Dans une RDC qui est dans un état de chaos, on le sait, profond, avec probablement des centaines de groupes armés qui découpent le territoire, avec des problèmes économiques gravissimes, mais qui, dans le Kivu, en raison du M23, subit des exactions, des massacres et des viols. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça un peu quand même la réalité, et donc M. Kagame devrait être mis face à ses responsabilités, lui qui n'a cessé de nous mettre face aux nôtres.
Alors on parle beaucoup du Rwanda et de ses responsabilités dans le conflit actuel. La RDC, la République démocratique du Congo, François Jemène, est victime. Est-ce qu'elle n'est que victime? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de responsabilité de la part des élites congolaises et de ses dirigeants? C'est par exemple Mobutu, il est parti remplacé par Kabila, qui était... aidé, appuyé aussi par les Rwandais, est-ce que les...
Bien sûr, et singulièrement dans cette région, moi je me souviens, j'ai conduit une enquête de terrain il y a maintenant une quinzaine d'années, où effectivement les populations disaient qu'elles étaient déplacées en permanence, soit par des guerres internes au Congo, soit par les milices du M23, soit par les éruptions volcaniques, et l'enquête portait le titre d'une phrase qui revenait en boucle de ce que disaient les gens, « Seul Dieu nous protège ». Et on voit très bien, à l'évidence, qu'il y a évidemment aussi des responsabilités dans la situation qui perdure depuis 20 ans de la part de la RDC. Et très clairement, c'est aussi une région que la RDC ne parvient pas à administrer, où les gens sont largement livrés à eux-mêmes et livrés aussi aux intérêts des compagnies minières et des compagnies ferroviaires. Et c'est un territoire qui est pillé en permanence. Cela étant, sur notre réaction vis-à-vis de Kagame, je crois qu'il y a aussi effectivement une sorte de malaise quant au fait que nous nous félicitions en quelque sorte de voir ce pays qui s'était si bien relevé du génocide, d'une forme de stabilité politique, fût-ce au prix d'un régime autoritaire, des bons offices que le Rwanda proposait pour accueillir les demandeurs d'asile au Danemark et au Royaume-Uni. Il faut rappeler qu'il y a encore quelques mois, les joueurs du PSG jouaient avec des maillots qui disaient « visite Rwanda, visitez le Rwanda », parce que le gouvernement rwandais était un des principaux sponsors du club. Et donc on voit bien les alliances qu'il y a entre le Rwanda et les pays européens, ce qui explique sans doute notre gêne aujourd'hui.
Mais il faudrait faire quoi alors? Il faudrait prévoir ou menacer le Rwanda de sanctions pour que ça s'arrête, Thomas Gomard? Ça peut être ça une des actions à suivre?
C'est ça qui est intéressant sur la manière d'essayer d'anticiper les choses, parce que je reviens à la remarque de Jean-François sur qui faisait quoi celle de François sur le parallèle avec l'Ukraine. Pourquoi je le reprends pas à mon compte, sans revenir sur les arguments déjà exposés par les uns et par les autres? Parce que précisément, ça va poser la question de pourquoi nous ne faisons rien pour la RDC? Et ça va alimenter, à mon sens, tout le discours sur le double standard. Je serais pas surpris qu'il y ait des voix politiques. Je me demande d'ailleurs si Jean-Luc Mélenchon s'est pas exprimé en ce sens, invitant à une sorte de prendre position et d'intervention des Nations Unies dans la région. Mais il n'y a pas une armée européenne ou qui envisage ça désormais, précisément avec la mémoire de ce qu'a été le génocide du Rwanda. Donc en fait, à mon avis, la solution ne peut être que régionale au sens de l'Union africaine, etc. Et avec des acteurs extérieurs qui ont en réalité, à mon sens, pour les raisons qu'on a indiquées vis-à-vis du Rwanda, un effet d'influence très limité.
Entre des déclarations diplomatiques et envoyer des soldats, il y a l'arme des sanctions économiques, Thomas Gomard.
C'est absolument, il y a cette perspective-là. Encore une fois, pour tout ce qu'on a dit sur le Rwanda, compte tenu de son positionnement, de l'importance qu'il a prise sur les minerais, il veut aussi être un acteur de l'intelligence artificielle, il se positionne sur à peu près tous les sujets globaux, je pense que ces sanctions vont être très difficiles à prendre.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je crois qu'il faut commencer par là, par les sanctions, vous avez raison. David Lammy, le chef de la diplomatie britannique, dans son coup de fil à Kagame, lui a dit apparemment, vous êtes en train de mettre en danger 1 milliard d'aides mondiales au Rwanda par an. Donc ça veut dire que la communauté internationale apporte 1 milliard de dollars par an.
8% du PIB, ça.
Voilà, au Rwanda. Donc là, il y a déjà un levier qui me paraît assez évident. L'Union européenne, par exemple, on parlait tout à l'heure de cette intervention des forces de l'armée rwandaise qui est si bien organisée au Mozambique pour chasser l'État islamique parce que l'armée mozambicaine n'arrivait pas à en venir à bout. L'Union européenne a financé cet effort de guerre avec 20 millions d'euros. Vous voyez, donc il y a plein de choses qu'on fait pour le Rwanda sur lesquels on peut agir aujourd'hui. Il me semble que c'est un levier évident. Il y a l'autre chose, un autre domaine dans lequel il faudrait vraiment regarder de près ce qui se passe, c'est celui donc de cette exploitation des minerais. On a vu par exemple, on a observé que en 4 ans, l'exportation, le volume d'exportation d'or du Rwanda s'est multiplié par 4, je crois. Or, je suis pas sûr que les mines d'or du Rwanda soient tellement productives en réalité.
C'est ce que disait Thomas tout à l'heure, voilà, c'est-à-dire qu'une partie de ces minerais viennent
C'est l'or qui vient du Nord Kivu, enfin du Congo. Et donc là aussi, on est en train, l'économie numérique et tous ces minerais sont tellement essentiels, pas l'or mais les autres, le coltan, etc. Enfin, sont tellement essentiels à la production de tout ce qu'on, de tous ces dispositifs, tous ces mécanismes qui sont indispensables pour l'économie numérique, que je crois qu'on se précipite peut-être un petit peu vite là-dessus aussi. Il faudrait aussi regarder de plus près d'où viennent tous ces minerais, comment ils sont exploités.
Okay, le coltan qu'on retrouve par exemple dans nos téléphones portables, voilà. Ce qui donne aussi peut-être une responsabilité. Responsabilité certes très indirecte, mais aussi à l'exploitation de ces minerais. Jean-François Colosimo.
Oui, moi je voulais dire que si on fait confiance quand même au fait que le Saint-Siège, le Vatican, reste la plus grande diplomatie au monde, avec le plus de représentants et avec aussi des tas de relais d'informations, toutes ces missionnaires, ces frères, ces sœurs qui sont sur place, etc., il faut se rendre compte que le pape François a choisi la République du Congo, la RDC, pour son voyage majeur en Afrique, parce qu'on a beaucoup parlé et à raison du Rwanda, mais les Congolais aussi méritent, je dirais, une attention particulière. Ça fait maintenant 30 ans qu'ils sont dans des souffrances profondes, en quête de leur unité politique, de leur survie économique, n'est-ce pas ? Et je crois que je crois que la concentration sur les torts du Rwanda ne doit pas nous faire oublier la situation extrêmement difficile de la RDC.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Merci François Gemène, Jean-François Colosimo, Thomas Gomard et Sylvie Kaufmann. Tous ces débats, vous pouvez les retrouver évidemment sur notre site internet et sur l'application de Radio France. Cette émission a été préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean Rédeau, avec à la prise de son Marie-Claire Oumabadi.